Enquête de cinéma sur Radio Galère 88.4. On est le 5 avril. Ça fait à peu près 20 jours qu'on est en confinement avec cette histoire de coronavirus. Alors le cinéma en période de confinement, je ne sais pas trop quoi en dire. On va essayer d'en dire un peu des choses. J'ai envoyé des mails à des amis cinéastes pour leur demander un peu comment ils vivaient cette période de confinement. Est-ce que pendant le confinement, en tant que cinéaste, on continue à filmer? Est-ce qu'on a du désir d'image? Est-ce qu'on monte? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Je ne sais pas. Donc c'est une enquête de cinéma particulier, un peu fragile, parce qu'on n'a pas accès, comme vous l'imaginez, au studio de Radio Galère. Et comble du comble, mon Macintosh a lui aussi voulu se mettre en confinement et donc je n'ai pas accès à mon Macintosh, donc je suis avec mon Zoom. On est en direct, c'est en live. Il y aura des bugs, il y aura des trous. Période de confinement, période de confinement. Alors pour commencer cette émission, ben on va commencer en douceur, même si c'est une émission qui est censée être autour du cinéma. Il va y avoir beaucoup de musique et pour commencer cette émission, quoi de mieux que de commencer par Pendant que les champs brûlent de Niagara. Thank you. Alors, je trouvais que c'était bien de commencer par Pendant que les champs brûlent, pour plein de raisons différentes. Aussi sûrement pour la raison qui est que quand les champs brûlent, comment on continue à aimer, comment on continue à s'aimer, comment on continue à se soucier du monde et comment on se bat un peu avec ce tiraillement-là. En tout cas, voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire écouter cette chanson que tout le monde connaît très bien. Alors le cinéma, qu'est-ce qu'il est à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il devient à ce moment-là? Qu'est-ce que font les gens? On va essayer de savoir un peu ce que les amis cinéastes font pendant cette période. Pas mal de personnes font des films. On en voit un peu partout. Pas mal de personnes regardent des films. On a la possibilité d'en voir. On a le temps. Les festivals continuent à exister. Maintenant, ils se font en ligne. On regarde en ligne les films. On les prime en ligne. Ça me rend un peu triste ça, parce que finalement le cinéma c'est surtout l'autre, c'est la question de l'altérité, et que si les choses se développent comme ça de plus en plus, où est-ce que sera l'autre? Parce qu'au final, dans une période de confinement, moi ce que je vis le plus mal, c'est le manque de l'autre. Et même si le manque donne du désir à faire des choses, ben il peut être dur quand l'autre n'est pas là. Alors pour continuer, pour commencer, j'avais envie de lire une citation que je trouvais qui faisait beaucoup écho à ce qu'on était en train de traverser. C'est un livre que je conseille de Pierre Zawi qui s'appelle Une traversée des catastrophes. Une traversée des catastrophes est d'abord une traversée des apparences. On y apprend à se défaire des clichés sur soi-même et sur les autres qui volent en éclats sous le choc des catastrophes. La maladie, la mort, la perte. Les fêlures, même l'amour et le bonheur changent radicalement de sens et de valeur. Mais une traversée des catastrophes exhibe aussi, sous toutes les vanités de l'immédiat, le noyau dur de la vie. Ce qui apprend non à nous détourner de la mort pour méditer la vie seule, mais à dire encore la vie face à la mort. La vérité des catastrophes n'est pas que l'abîme et le néant, c'est aussi bien un vitalisme renouvelé, qui ne recule plus devant le plus bas, le plus douloureux ou le plus commun, puisqu'il comprend enfin que ce n'est là rien d'autre que la vie même. Pas la vie éperdue, pas la vraie vie, mais la vie tout court. Finalement, c'est admettre que rien en ces affaires ne se traverse, ni ne se comprend complètement. C'est reconnaître qu'il y a toujours un pas à faire, parfois rapide, parfois lent, par-delà toute joie et toute tristesse. Voilà, c'était une citation de Pierre Zawi dans un livre Une traversée des catastrophes que je vous recommande vivement. Alors j'ai envie de vous faire écouter un morceau de Rebetiko, parce que ces derniers temps j'ai beaucoup écouté du Rebetiko, et on y reviendra un peu plus tard dans l'émission. C'est aussi grâce à un film que j'ai découvert. Alors là, ça s'appelle Tu minor tis tavernas. Pourquoi j'ai envie de faire écouter du Rebetiko? Pourquoi j'écoute beaucoup de Rebetiko en ce moment? Sûrement parce que c'est un sentiment de mélancolie qui m'habite le plus fréquemment. Sûrement que c'est dû à la question de la solitude. Et qu'en tant que cinéaste, l'autre me manque beaucoup, parce qu'au final, je crois que si je fais des films, c'est pour rencontrer l'autre, pour me rencontrer, pour aller à sa rencontre, et que s'il n'y avait pas le cinéma, je ne sais pas comment j'aurais appris à vivre.
Μουζουκάκι με την πλουτενιά
C'était Tuminor Tis Tavernas, musique rebetiko, la musique entre autres des exilés. Comme c'est beau. Là, je vais vous lire un texte. C'est un ami cinéaste qui voulait que je lise ce texte. Il voulait que je l'accompagne d'une prise de son dans ce Marseille vide, dans cette ville un peu abandonnée, absente, où il n'y a plus beaucoup de monde. On sort pour se voir avec une distance de 1 mètre, 1 mètre 50. On se touche plus, on se regarde. C'est assez étrange comme sensation. Alors c'est un texte qui n'est pas écrit de la ville, qui est écrit de la campagne. Mon frère m'a dit qu'à Marseille, il aperçoit la Voie lactée. Un ami me raconte qu'à Montpellier, il n'a jamais entendu autant d'oiseaux. Depuis la garrigue où je vis, je sens l'air de la mer pour la première fois. Ces impressions, plus ou moins subjectives, parlent de ce qui a lieu. L'humain s'est littéralement retiré du monde, et à notre grand étonnement, le monde parle, frémit, s'émeut. Le printemps n'est pas silencieux. On pourrait presque entendre les feuilles des figuers pousser, les rapaces peuplent le ciel bleu, les pissenlits prennent d'assaut les trottoirs. Chaque buisson est un conciliabule de moineaux, se demandant où sont passés les humains. Les chats traversent la route avec insouciance, comme si les voitures n'avaient jamais existé. Quand je vais travailler dans mon champ, je ne trouve plus de renards ou de hérissons écrasés sur le bitume. Qui sommes-nous pour laisser un animal se faire rouler dessus des dizaines de fois, ne prenant pas la peine de descendre de voiture pour le déposer sur la terre, parmi les herbes et les fourmis? Le territoire de l'humain se réduit comme une peau de chagrin. Combien d'infrastructures sont hors d'usage, combien de centres commerciaux, combien de routes, combien d'aéroports? Ces lieux qui tapissent la surface de la terre deviendront peut-être des vestiges, comme ces murets de pierres sèches envahis par les ronces, comme ces maisons en ruine au milieu des forêts. Malgré tous les efforts que nous déployons depuis des décennies à coups de pesticides et d'extractivisme, nous ne sommes pas arrivés à faire taire le printemps. La terre s'émeut encore. Au moment où j'écris ces lignes, nous sommes plus de 2 milliards d'humains à nous retirer du monde. Ce chiffre va certainement augmenter dans les jours et les semaines à venir. Cette expérience commune sans précédent pourrait devenir un acte fondateur. Nous faisons l'expérience d'un même chancellement, qu'aucune frontière, aucun mur ne semble pouvoir contenir. Le mythe d'une globalisation marchande, indolore et aseptisée, vole en éclats, laissant la place à un sentiment d'hébétement. Privés de nos infrastructures, privés de nos distractions, privés de nos consommations, par quoi sommes-nous habités? De quoi sommes-nous peuplés? Assis dans la garrigue, seul, pendant que le soleil se couche, une vision me saisit. Je fais l'expérience du terrestre. À cet instant précis, je respire l'air de l'Himalaya, je respire l'air des steppes de Mongolie. Et ce voyage immobile n'est pas une pure pensée. C'est une réalité concrète, tangible, comme ces fumées des feux australiens, dont les images satellites nous révèlent qu'elles ont fait le tour du monde. Comment donner une dimension politique à ces faits scientifiques? Comment les faire entrer dans les plis de nos existences? Un monde disparaît sous nos yeux, laissant peut-être le champ à une expérience terrestre, à quelque chose qui ne se dérobe pas, C'est là, sous nos pieds, assis dans la garrigue. En pleine pandémie de coronavirus, j'éprouve que la Terre me retient, qu'elle ne me lâche pas. Cette expérience de la gravitation universelle est rassurante, presque réconfortante. Mon corps est intrinsèquement lié au corps de la Terre qui me retient, qui m'attire. Qui sait, la gravitation terrestre est peut-être une preuve d'amour. Voilà, c'est un texte écrit depuis la campagne qui, pour nous, personnes de la ville, a une autre résonance. Il y a un gros débat sur les personnes qui sont parties à la campagne, les personnes qui sont restées en ville. On a dit que les bourgeois étaient partis à la campagne. Il paraît que c'est quelque chose qui se passe souvent pendant une pandémie. Les bourgeois partent à la campagne et puis, en partant à la campagne, ils contaminent un peu aussi la campagne. Ce matin, j'ai lu un article sur un quartier à Marseille, Maison-Blanche. C'est un quartier qui est complètement à l'abandon depuis des années. Un quartier qui vit uniquement de travail au noir. Et là, dans une période comme ça, ben c'est assez déstabilisant pour eux ce qui se passe. Assez dur. Et ils s'organisent en totale autonomie. Est-ce qu'on aura encore besoin de l'État? Je ne sais pas. Qu'est-ce que va devenir la société après ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va retenir? On respire mieux, l'air est plus beau, on a du temps. Mais bon, est-ce que ça concerne tout le monde? On sait bien que les inégalités, à la sortie du... pendant une expérience comme ça, ou une épreuve comme ça plutôt, ben, les inégalités se creusent encore plus. Alors profiter du temps, ben oui, c'est pas évident. On a envie d'être égoïste, c'est peut-être une question d'éthique. L'éthique de se faire du bien, puis il y a une question de morale. Moi je me bats avec ça. Au départ, j'avais pas envie de faire d'action de solidarité. J'ai du mal avec la question de la solidarité, avec l'humanisme. Puis pourtant, j'ai été faire des maraudes, j'ai été distribuer de la nourriture. Je savais pas si je le faisais pour pas culpabiliser, ou peut-être je le faisais parce que tout seul, c'était un peu trop dur. Enfin voilà, c'était une réflexion que j'avais envie de partager. J'ai vu un film dernièrement, pour continuer cette émission, un peu borderline, l'émission en quête de cinéma, parce que de cinéma, je ne sais pas si on va en parler suffisamment pour savoir un peu ce que le cinéma pourrait nous raconter. Je pense que c'est dur de filmer au présent ce qui se passe, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe, qu'il est important peut-être de laisser le temps passer pour avoir du recul. Et un peu comprendre ce qui nous est arrivé au vu de ce que nous vivrons quand on sortira de ce confinement. Est-ce que je suis optimiste ou est-ce que je suis pessimiste? Je sais pas. Mais en étant seul avec moi-même, j'ai envie d'avoir de l'espoir parce que si j'ai pas d'espoir, je crois que je finirai pendu dans ma chambre. Non, je rigole. Alors j'ai vu un film justement sur le Rebetiko et c'est pour ça que je passe beaucoup de Rebetiko. Ça s'appelle Don't Rush d'Élise Florenti et Marcel Turkowski. Ces trois jeunes qui sont dans un appart. Deux pièces. Tout le film se passe dans cet appartement, comme une forme de confinement. Et ils écoutent du Rebetiko, ils nous font écouter du Rebetiko. Et pendant qu'on écoute ce Rebetiko, ils nous parlent du monde, de la vie, de la question de lutter, de la question d'aimer, de la question comment en luttant on peut continuer à aimer, parce que lutter ça fait mal. Et comment en aimant, ben. On continuait à lutter encore et encore. Alors là, je me suis peut-être répété. La chanson que je vais vous faire écouter, c'est le du Rebetiko. C'est The Loser de Ioannis Alikias en 1947. Toujours de la mélancolie. La mélancolie, la solitude. La solitude, la mélancolie. C'est les sentiments qui m'habitent beaucoup en cette période de confinement. Thank you. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, le Rebetiko. Alors pour continuer cette émission en quête de cinéma, j'avais envie de vous faire écouter quelque chose que je ne connais pas, mais dont on m'a dit beaucoup de bien. C'est Foucault qui nous parle de l'utopie du corps. Et je trouvais que c'était intéressant pour de multiples raisons. Bah, ça me faisait penser au corps des cinéastes, qui est important, le corps d'un cinéaste quand on filme, le corps des personnes qu'on filme. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un corps filmé. Et puis ça me fait penser aussi à ce qu'on vit. Tout au début du confinement, j'ai eu beaucoup d'angoisse. J'étais beaucoup sur Internet, à essayer d'échanger avec des gens, j'étais beaucoup au téléphone. Et puis Internet, on sait comme c'est une source de plein de choses, mais ça rend l'échange avec les autres très compliqué. On ne se comprend pas, on se comprend mal. Déjà dans la vie dite normale, c'est difficile de se comprendre, mais alors par Internet, ça devient l'enfer. Et ça m'a amené un peu à péter les plombs, et ça a été toute une période où j'ai un peu oublié mon corps, quoi. Et j'étais dans ma tête, trop conscient de moi, ou trop subconscient de moi, ou trop inconscient de moi, inconscient de moi. Je sais pas, mais en tout cas, c'était pas agréable. Alors là, après, j'ai essayé de me remettre dans mon corps en faisant des choses que je faisais jamais, de la corde à sauter, des pompes, essayer de reprendre le footing, et ma tête allait un peu mieux. On peut pas dire qu'elle allait super bien parce que je continuais un peu à regarder ce qui se passait, puis parce que c'était important pour moi un peu de regarder ce qui se vivait, ce que les gens vivaient, entre l'envie de profiter de ce qui se passe et la dureté aussi. De se rendre compte de ce qui se passe. Alors voilà, on va écouter ce texte de Foucault. Il dure une vingtaine de minutes, il est long. On m'a dit qu'il était très chouette, très puissant. Alors le corps, l'utopie du corps, ouais. C'est intéressant parce que finalement, peut-être que le corps, c'est le seul territoire que chacun a et que chacun peut habiter, bien que l'on sait qu'il y a des corps qui sont libres et on sait aussi qu'il y a des corps qui sont dominés et exploités. Mais l'utopie du corps, je trouve ça très beau. Alors je me permets de vous le faire écouter et puis on se retrouve après pour la suite de cette émission en quête de je ne sais plus trop quoi, mais en quête de cinéma, sûrement encore un peu.
Ce lieu que Proust, doucement, anxieusement, vient occuper de nouveau à chacun de ses réveils, à ce lieu-là, dès que j'ai les yeux ouverts, je ne peux plus échapper. Non pas que je sois, par lui, cloué sur place, puisqu'après tout, je peux non seulement bouger et remuer, mais je peux le remuer, le bouger, le changer de place. Seulement voilà, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je ne peux pas le laisser là où il est, pour m'en aller, moi, ailleurs. Je peux bien aller au bout du monde, je peux bien me tapir le matin, sous mes couvertures, me faire aussi petit que je pourrais. Je peux bien me laisser fondre au soleil, sur la plage. Il sera toujours là où je suis. Il est ici, irréparablement, jamais ailleurs. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours, que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et c'est dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener. À travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau, croupir. Mon corps, c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Et je pense après tout que c'est contre lui, et comme pour l'effacer, qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement d'utopie, à quoi sont-ils dus? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux, mais c'est un lieu où j'aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Et il se peut bien que l'utopie première, celle qui est le plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l'utopie d'un corps incorporel. Le pays des fées, le pays des lutins, des génies, des magiciens, eh bien, c'est le pays où les corps se transportent aussi vite que la lumière. C'est le pays où les blessures guérissent avec un baume merveilleux, le temps d'un éclair. C'est le pays où on peut tomber d'une montagne et se relever vivant. C'est le pays où on est visible quand on veut, invisible quand on le désire. S'il y a un pays féerique, c'est bien pour que j'y sois prince charmant et que tous les jolis gommeux deviennent poilus et vilains comme des oursons. Il y a aussi une utopie qui est faite pour effacer les corps. Cette utopie, c'est le pays des morts. Ce sont les grandes cités utopiques que nous a laissées la civilisation égyptienne. Les momies, après tout, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'utopie du corps nié et transfiguré. La momie, c'est le grand corps utopique qui persiste à travers le temps. Il y a eu aussi les masques d'or que la civilisation mycénienne posait sur le visage des rois défunts. Utopie de leur corps glorieux, puissant, solaire, terreur des armées. Il y a eu les peintures et les sculptures des tombeaux, les gisants qui, depuis le Moyen-Âge, prolongent dans l'immobilité une jeunesse qui ne passera plus. Il y a maintenant, de nos jours, ces simples cubes de marbre, corps géométrisés par la pierre, figures régulières et blanches sur le grand tableau noir des cimetières. Et dans cette cité d'utopie des morts, voilà que mon corps devient solide comme une chose, éternel comme un dieu. Mais peut-être la plus obstinée, la plus puissante de ces utopies par lesquelles nous effaçons la triste topologie du corps, eh bien, c'est le grand mythe de l'âme qui nous l'a fourni depuis le fond de l'histoire occidentale. L'âme, elle fonctionne dans mon corps d'une façon bien merveilleuse. Elle y loge, bien sûr, mais elle sait bien s'en échapper. Elle s'en échappe pour voir les choses à travers les fenêtres de mes yeux. Elle s'en échappe pour rêver quand je dors, pour survivre quand je meurs. Elle est belle, mon âme, elle est pure, elle est blanche. Et si mon corps boueux, en tout cas pas très propre, vient à la salir, il y aura bien une vertu, il y aura bien une puissance, il y aura bien mille gestes sacrés qui la rétabliront dans sa pureté première. Elle durera longtemps, mon âme, et plus que longtemps, quand mon vieux corps ira pourrir. Vive mon âme, c'est mon corps lumineux, purifié, vertueux, agile, mobile, tiède, frais, c'est mon corps lisse, châtré, arrondi comme une bulle de savon. Et voilà, mon corps, par la vertu de toutes ces utopies, a disparu. Il a disparu comme la flamme d'une bougie qu'on souffle. L'âme, les tombeaux, les génies et les fées ont fait main basse sur lui, l'ont fait disparaître en un tournement, ont soufflé sur sa lourdeur, sur sa laideur, et me l'ont restitué, éblouissant et perpétuel. Mais mon corps, à vrai dire, il ne se laisse pas réduire si facilement. Il a, après tout, lui-même, ses ressources propres de fantastique. Il en possède, lui aussi, des lieux sans lieu, et des lieux plus profonds, plus obstinés encore que l'âme, que le tombeau, que l'enchantement des magiciens. Il a ses caves et ses greniers, il a ses séjours obscurs, il a ses plages lumineuses. Ma tête, par exemple, ma tête, quelle étrange caverne, ouverte sur le monde extérieur par deux fenêtres. Deux ouvertures, j'en suis bien sûr, puisque je les vois dans le miroir, et puis je peux fermer l'une ou l'autre séparément. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule de ces ouvertures, car je ne vois devant moi qu'un seul paysage, continu, sans cloison ni coupure. Et dans cette tête, comment est-ce que les choses se passent? Eh bien, les choses viennent se loger en elle, Elles y entrent, et ça je suis bien sûr que les choses entrent dans ma tête quand je regarde, puisque le soleil, quand il est trop fort et m'éblouit, va déchirer jusqu'au fond de mon cerveau. Et pourtant, ces choses qui entrent dans ma tête, elles demeurent bien à l'extérieur, puisque je les vois devant moi, et que pour les rejoindre, je dois m'avancer à mon tour. Corps incompréhensible, corps pénétrable et opaque, corps ouvert et fermé, corps utopique. Corps absolument visible en un sens. Je sais très bien ce que c'est qu'être regardé par quelqu'un d'autre de la tête aux pieds. Je sais ce que c'est qu'être épié par derrière, surveillé par-dessus l'épaule, surpris quand je m'y attends le moins. Je sais ce que c'est qu'être nu. Et pourtant, ce même corps qui est si visible, il est retiré. Il est capté par une sorte d'invisibilité de laquelle jamais je ne peux le détacher. Ce crâne, ce derrière de mon crâne que je peux tâter là avec mes doigts, mais voir jamais. Ce dos que je sens appuyé contre la poussée du matelas sur le divan quand je suis allongé, mais que je ne surprendrai que par la ruse d'un miroir. Et qu'est-ce que c'est que cette épaule dont je connais avec précision les mouvements et les positions, mais que je ne saurais jamais voir sans me contourner affreusement. Le corps, fantôme qui n'apparaît qu'au mirage des miroirs, et encore d'une façon fragmentaire, est-ce que vraiment j'ai besoin des génies et des fées, et de la mort et de l'âme, pour être à la fois indissociablement visible et invisible? Et puis ce corps, il est léger, il est transparent, il est impondérable. Rien n'est moins chose que lui, il court, il agit, il vit, il désire. Il se laisse traverser sans résistance par toutes mes intentions. Et oui, mais jusqu'au jour où j'ai mal, où se creuse la caverne de mon ventre, où se bloque, où s'engorge, où se bourre d'étoupe ma poitrine et ma gorge, jusqu'au jour où s'étoile au fond de ma bouche le mal aux dents. Alors là, je cesse d'être léger, impondérable, etc. Je deviens chose, architecture fantastique et ruinée. Non, vraiment, il n'est pas besoin de magie ni de féerie. Il n'est pas besoin d'une âme ni d'une mort pour que je sois à la fois opaque et transparent, visible et invisible, vie et chose. Pour que je sois utopie, il suffit que je sois un corps. Toutes ces utopies par lesquelles j'esquivais mon corps, eh bien, elles avaient tout simplement leur modèle et leur point premier d'application, elles avaient leur lieu d'origine dans mon corps lui-même. J'avais bien tort tout à l'heure de dire que les utopies étaient tournées contre le corps et destinées à l'effacer. Elles sont nées du corps lui-même et se sont peut-être ensuite retournées contre lui. En tout cas, il y a une chose certaine. C'est que le corps humain est l'acteur principal de toutes les utopies. Après tout, une des plus vieilles utopies que les hommes se sont racontées à eux-mêmes, n'est-ce pas? Le rêve de corps immense, démesuré, qui dévorerait l'espace et maîtriserait le monde. C'est la vieille utopie des géants, qu'on trouve au cœur de tant de légendes en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie. Cette vieille légende qui a si longtemps nourri l'imagination occidentale de Prométhée à Gulliver. Le corps aussi est un grand acteur utopique quand il s'agit des masques, du maquillage et du tatouage. Se masquer, se maquiller, se tatouer, ce n'est pas exactement comme on pourrait se l'imaginer. Acquérir un autre corps, simplement un peu plus beau, mieux décoré, plus facilement reconnaissable. Se tatouer, se maquiller, se masquer, c'est sans doute tout autre chose. C'est faire entrer le corps en communication avec des pouvoirs secrets et des forces invisibles. Le masque, le signe tatoué, le phare, dépose sur le corps tout un langage. Tout un langage énigmatique, tout un langage chiffré, secret, sacré, qui appelle sur ce même corps la violence du Dieu, la puissance sourde du sacré, ou la vivacité du désir. Le masque, le tatouage, le phare, ils placent le corps dans un autre espace, ils le font entrer dans un lieu qui n'a pas de lieu directement dans le monde. Ils font de ce corps un fragment d'espace imaginaire, qui va communiquer avec l'univers des divinités ou avec l'univers d'autrui. On sera saisi par les dieux ou on sera saisi par la personne qu'on vient de séduire. En tout cas, le masque, le tatouage, le phare, sont des opérations par lesquelles le corps est arraché à son espace propre et projeté dans un autre espace. Écoutez par exemple ce conte japonais et la manière dont un tatoueur fait passer dans un univers qui n'est pas le nôtre le corps de la jeune fille qu'il désire.
Le soleil dardait ses rayons sur la rivière et incendiait la chambre aux sept nattes. Ses rayons réfléchis sur la surface de l'eau formaient un dessin de vagues dorées sur le papier des paravents et sur le visage de la jeune fille profondément endormie. Seikichi, après avoir tiré les cloisons, prit en main ses outils de tatouage. Pendant quelques instants, il demeura plongé dans une sorte d'extase. C'est à présent qu'il goûtait pleinement l'étrange beauté de la jeune fille. Il lui semblait qu'il pouvait rester assis devant ce visage immobile pendant des dizaines et des centaines d'années sans jamais ressentir ni fatigue ni ennui. Comme le peuple de Memphis embellissait jadis la terre magnifique d'Égypte, de pyramides et de sphinx, ainsi Seikichi, de tout son amour, voulut embellir de son dessin la peau fraîche de la jeune fille. Il lui appliqua aussitôt la pointe de ses pinceaux de couleur tenus entre le pouce, l'annulaire et le petit doigt de la main gauche. Et à mesure que les lignes étaient dessinées, il les piquait de son aiguille tenue de la main droite.
Et si on songe que le vêtement sacré ou profane, religieux ou civil, fait entrer l'individu dans l'espace clos du religieux ou dans le réseau invisible de la société, alors on voit que tout ce qui touche au corps, dessins, couleurs, diadèmes, tiares, vêtements, uniformes, tout cela fait épanouir sous une forme sensible et bariolée les utopies scellées dans le corps. Et peut-être faudrait-il descendre encore au-dessous du vêtement. Peut-être faudrait-il atteindre la chair elle-même. Et alors on verrait que, dans certains cas, à la limite, c'est le corps lui-même qui retourne contre soi son pouvoir utopique et fait entrer tout l'espace du religieux et du sacré, tout l'espace de l'autre monde, tout l'espace du contre-monde, à l'intérieur même de l'espace qui lui est réservé. Alors le corps, dans sa matérialité, dans sa chair, serait comme le produit de ses propres fantasmes. Après tout, est-ce que le corps du danseur n'est pas justement un corps dilaté selon tout un espace qui lui est intérieur et extérieur à la fois? Et les drogués aussi, et les possédés dont le corps devient enfer, les stigmatisés dont le corps devient souffrance, rachat et salut, sanglant paradis. J'étais sot vraiment tout à l'heure de croire que le corps n'était jamais ailleurs, qu'il était un ici irrémédiable et qu'il s'opposait à toute utopie. Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs. Il est lié à tous les ailleurs du monde. Et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. Car c'est autour de lui que les choses sont disposées. C'est par rapport à lui et par rapport à lui comme par rapport à un souverain qu'il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps, il est le point zéro du monde. Là où les chemins et les espaces viennent se croiser, le corps, il n'est nulle part. Il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique, à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses en leur place, et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Mon corps, il est comme la cité du soleil, il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. Après tout, les enfants mettent longtemps à savoir qu'ils ont un corps. Pendant des mois, pendant plus d'une année, ils n'ont qu'un corps dispersé, des membres, des cavités, des orifices. Et tout ceci ne s'organise, tout ceci ne prend littéralement corps que dans l'image du miroir. D'une façon plus étrange encore, les Grecs d'Homère n'avaient pas de mots pour désigner l'unité du corps, aussi paradoxal que ce soit. Devant Troie, sous les murs défendus par Hector et ses compagnons, il n'y avait pas de corps. Il y avait des bras levés, il y avait des poitrines courageuses, il y avait des jambes agiles, il y avait des casques étincelants au-dessus des têtes, il n'y avait pas de corps. Le mot grec qui veut dire corps n'apparaît chez Homère que pour désigner le cadavre. C'est ce cadavre, par conséquent, c'est le cadavre et c'est le miroir qui nous enseigne, enfin qui ont enseigné aux Grecs et qui enseignent maintenant aux enfants, que nous avons un corps, que ce corps a une forme, que cette forme a un contour, que dans ce contour il y a une épaisseur, un poids. Bref, que le corps occupe un lieu. C'est le miroir et c'est le cadavre qui assigne un espace à l'expérience profondément et originairement utopique du corps. C'est le miroir et c'est le cadavre qui font taire et apaisent et ferment sur une clôture qui est maintenant pour nous scellée, cette grande rage utopique qui délabre et volatilise à chaque instant notre corps. C'est grâce à eux, c'est grâce au miroir et au cadavre que notre corps n'est pas pure et simple utopie. Or, si l'on songe que l'image du miroir est logée pour nous dans un espace inaccessible et que nous ne pourrons jamais être là où sera notre cadavre, si l'on songe que le miroir et le cadavre sont eux-mêmes dans un invincible ailleurs, alors on découvre que seules des utopies peuvent refermer sur elles-mêmes et cacher un instant l'utopie profonde et souveraine de notre corps. Peut-être faudrait-il dire aussi que faire l'amour, c'est sentir son corps se refermer sur soi, c'est enfin exister hors de toute utopie, avec toute sa densité entre les mains de l'autre, sous les doigts de l'autre qui vous parcourt. Toutes les parts invisibles de votre corps se mettent à exister. Contre les lèvres de l'autre, les vôtres deviennent sensibles. Devant ses yeux mi-clos, votre visage acquiert une certitude. Il y a un regard, enfin, pour voir vos paupières fermées. L'amour, lui aussi, comme le miroir et comme la mort, il apaise l'utopie de votre corps, il la fait taire, il la calme, il l'enferme comme dans une boîte, il la clôt et il la scelle. C'est pourquoi il est si proche parent de l'illusion du miroir et de la menace de la mort. Et si malgré ces deux figures périlleuses qui l'entourent, on aime tant faire l'amour, c'est parce que dans l'amour, le corps est ici.
Alors voilà le texte de Foucault sur le corps. Je ne sais pas ce que vous en retiendrez. Je ne sais pas comment ça vous fera écho dans ce que vous traversez. C'est un ami cinéaste qui m'a envoyé ça quand j'ai fait la proposition à des cinéastes pour participer à cette émission de m'envoyer des choses diverses et variées. À la fin de ce texte, ça parle d'amour, encore une fois, toujours l'amour. C'est vrai que dans la solitude, ce qui manque le plus, c'est l'autre, et l'autre, ce n'est pas que l'amour, mais entre autres, c'est beaucoup l'amour. On va écouter une musique, après ces paroles longues et fleuves, très complexes, dont j'ai pas pu m'approprier tout, d'une des reines du Rebetiko, toujours le Rebetiko, encore le Rebetiko, Rosa Eskenazi.
Από το βράδυ στο πρωί με πρεζαστήκω στη ζωή. Mm-hmm. κοσμοκράτορας πρέζα ο Θαμπής, ρέπα εφραμπής, κι όλα πια στο κόσμο ρόδινα φαινά θα δεις.
Ρόζα μου για σένα νέγινα πρεζάκια.
C'était Rosa Eskenazi, une reine du Rebetiko. Le Rebetiko, c'est une musique très mélancolique, et comme je l'ai dit, ou je ne sais plus si je l'ai déjà dit, la mélancolie et la solitude. En ce moment, c'est quelque chose que je vis particulièrement. Alors je me suis posé la question, c'était quoi la mélancolie, et j'ai pas su trop quoi y répondre. Et pour y répondre, je vais vous lire un petit texte de Serge Danet, un critique de cinéma, d'ailleurs un des critiques les plus intéressants. Alors, qu'est-ce que nous dit Serge Danet ? Il nous dit « Moi, je réagis assez mal quand on me parle de nostalgie. Comme tous les mélancoliques, j'ai le goût du présent en soi, celui du journalisme par exemple, qui pense un jour après un jour. Le présent est pour moi une sorte d'absolu, de résistance, de défi à la nécessité de planifier, de programmer, de prévoir et surtout de travailler personnellement à l'obtention de ses propres plaisirs, ce qui m'exaspère et me fait horreur. Le présent, en fait, c'est le luxe de celui qui n'a rien. Rien que ces plaisirs non cumulables que sont la conscience d'un nouveau jour qui commence, du soleil sur la peau, d'une terrasse du café, du défilé des autres, des gens normaux. C'est la fierté de ceux qui ne possèdent rien. Pas de cumul, pas de gestion, ce mot qui a connu un tel succès. L'obligation d'être sur le chemin des choses comme elles viennent, une à une, vers moi, et vers le seul corps qui est le mien, et qui devra bien leur rendre. Par oral, par écrit, par écriture orale, quelque chose, la perfusion du présent. Voilà, je trouve que ça parle très bien de la mélancolie, comme je trouve que la mélancolie est intéressante. Quelque chose de... Enfin, voilà, quoi. Sinon, j'imagine bien que beaucoup de gens regardent des films, parce qu'il y a du temps, parce que des films circulent. Là, j'étais sur Facebook et il y a une liste qui s'est montée pour s'envoyer... tous les films qu'on veut. Alors on trouve plein de perles et j'en ai vu deux que j'avais juste envie de vous évoquer si vous êtes amené à les voir. Je vous les conseille vraiment. Tout d'abord, il y a le film de Not Angel But Angel de 1994 de Victor Gorski qui se passe dans les pays de l'Est. J'ai oublié lequel plus particulièrement. C'est un film, on va dire, dans un genre documentaire, bien que la question des genres est un peu enfermante. Mais bon, c'est pour nommer, j'aurais pu m'en passer. Et ce film s'articule autour de jeunes adolescents qui, pour survivre, se prostituent. Et c'est, je sais pas, c'est magnifique, c'est violent, c'est dur, mais c'est beau. Ils ont une puissance de vie, quelque chose qui est impressionnant. Je saurais même pas comment le nommer, mais en tout cas, je vous le conseille vivement. Il est dur, mais... Mais il donne de la force. Et puis l'autre film que j'ai revu et que j'avais déjà vu, c'est Un endroit sur Terre de Arthur Aristakissian, que je conseille vivement, vraiment. C'est pour moi un absolu du cinéma de ces dernières années. Il a été fait à peu près il y a 10 ans. C'est un film qui s'est fait à Saint-Pétersbourg et qui raconte un peu l'histoire d'une communauté, on pourrait dire une communauté de hippies qui vit dans un squat. Et moi, ce que je m'en suis raconté de ce film, en tout cas comment je me le raconte, c'est un peu cette communauté qui se dit comment on peut agir pour que le monde aille mieux. Et pour ça, bah, ils décident d'aimer toute personne qui vit dehors, qui est en souffrance, qui est abîmée, qui est cabossée par la vie. Donc d'aimer ces personnes jusqu'à leur faire l'amour. Et c'est beau et c'est perturbant parce qu'à un moment, ces personnes à qui on leur fait l'amour, ben... Elles veulent pas s'arrêter, elles en veulent plus, elles en veulent encore. Et toute cette communauté de hippies ben, se retrouve complètement bousculée dans ses fondements avec une sorte de gourou qui essaye de tenir la baraque. Alors je vous conseille ces deux films-là. Voilà. Autrement, ce que j'ai reçu aussi comme amis cinéastes qui m'ont envoyé des choses, une amie m'a envoyé un plan d'un nuage, un très beau nuage, filmé pendant une minute. Un nuage, les nuages, on peut les filmer qu'en contre-plongée. Et je trouve que c'est très beau de savoir ça, que les nuages, on peut les filmer qu'en contre-plongée. Alors merci pour ce plan d'un nuage. On va aller à Paris, où un autre ami cinéaste m'a envoyé des vidéos pour participer à cette émission. Alors des vidéos, c'est pas évident quand on est à la radio, le coquin, mais bon, bah, ce que je me suis dit, c'est que je vais vous envoyer, vous faire écouter quelques minutes d'un bout de ces vidéos, et puis je vous dirai un peu ce qui se passe à l'image, ou peut-être pas, on va voir.
Hein, cousine? Ça va, tata? Pas de colis pour moi? Il y en a? Ah, cool! Il y a un colis pour moi. Cool, 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 un colis!
Alors là, il y a la caméra qui est cadrée de sa fenêtre. Sortir de sa fenêtre. Et il part dans la maison qui est juste en face de chez lui, voir sa tata. On se demande c'est quoi ce colis. On va le savoir tout de suite. Il lui prend la temps de lui faire un gros bisou et de la serrer fort dans ses bras. Il tarde un peu, il va revenir à sa fenêtre. D'ici quelques secondes, je pense. Je ne sais pas trop combien de temps il va prendre pour discuter avec sa tata.
Donc, l'une de mes activités pendant le confinement, c'est d'aller chercher à manger chez ma tante qui est en face. Et là, mamma mia, what is this? C'est le truc qu'elle fabrique. Et c'est grâce à elle que j'arrive à tenir en vrai, heureusement. Et une pensée à toutes les personnes qui sont seules, qui n'ont personne vraiment. Une pensée, ça veut rien dire et ça peut rien leur faire. Mais bon, voilà quoi, c'est déjà ça. Voilà, une pensée à ces gens-là. Qui doivent aller chercher le courage et la patience ailleurs que chez leur tante qui est en face, quoi. Donc voilà.
Alors en fait, sa tante lui a préparé une bonne et une belle tarte.
On va essayer de quand même pas renverser le café une deuxième fois. Et donc maintenant, technique.
Donc il remonte par la fenêtre chez lui.
Voilà.
Je pense pour boire le café et manger la
tarte.
C'est
vite sorti. Pour pas manger une amande. Attention.
Je me disais, je l'ai vu passer de l'autre côté.
Mais qu'est-ce qui se passe?
C'est vrai qu'il n'y a pas de Ferrari ici. J'ai dit, mais merde, ça y est, il a fait déjà son tour. T'as fait
J'allais
déjà
partir voir tata vite fait, j'avais un colis avec. Tu viens faire la marche?
Allez.
Non, moi je vais faire l'interview.
Mmh.
Non.
Ok.
C'est mon ami réalisateur qui fait des portraits sur des cinéastes confinés. Et donc il nous demande de raconter un peu comment on passe la journée.
Et là, t'es en train de dire ce que tu es toi aussi, comment t'es confiné?
Oui, voilà, il va raconter l'histoire du confinement.
Ah, d'accord.
Donc voilà, j'ai installé un peu. On va voir ce que ça donne. Et j'ai renversé le café tout à l'heure, là, ça, j'ai fait la... Voilà, ça c'était ma tante aussi. Je n'ai pas dit qu'on filmait, mais bon, ça c'est une autre tante. Hommage à cette tante qui
Il me vraiment fait tout pour que je garde la tête sur les épaules.
Donc, je sais pas si je suis dans le cadre en fait. Je crois que je suis pas dans le cadre là.
Non, en effet, là, t'es pas dans le cadre.
En cas où tu vas, t'as envie d'aller chez l'Arabie ou la Hache, je me dis.
D'accord. Bah, demain.
Demain dimanche, hein. C'est le matin.
Non, c'est aujourd'hui, non?
Mais samedi prochain.
On est samedi.
C'est ça.
Ah, samedi soir.
On est samedi soir.
Ok. Alors je vais faire là le comptoir comme ça, comme tu viens de faire. Et voilà, c'est parti.
La boule, la lolette.
Et voilà, je vais faire DJ, je te jure.
Eh, on me dit ce que je préfère.
Ouais, je sors les baffles ici. Et ouais, on peut le faire, je crois, mais vers 16h, 17h. Parce qu'il y a la petite là-bas.
17h, il est les 18h.
Frôlons pas la folie quand même.
Tu mets l'ordinateur ici. Avec
c'est bien comme ça, ouais.
Un haut-parleur, mais il y a du vent là d'un coup. Il n'était pas tout à l'heure.
Ah. Allez, tata, n'attrape pas froid. Hein.
Non, je
ne ouais. Non, il y a un peu de soleil, mais. Donc, en fait, à travers le miroir. Voilà. En fait, j'aimerais bien être à l'aise, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Donc, je vais juste rajouter une petite extension. Voilà mon cher Lot, désolé pour ça, tu te débrouilleras au montage, tu vas couper, tu feras ta vie. Je peux pas tourner, monter en même temps, tu vois, donc je te laisse un peu travailler. Tout ça, tu débrouilles. Ah, voilà, là je vois bien. En fait, là, comment j'ai fait? Je vais t'expliquer. Donc, j'ai mis mon téléphone, la caméra, face, et derrière j'ai le reflet de la fenêtre en fait, et donc je peux voir si ça tourne, ça tourne pas, si le cadre il est bon, il est pas bon. Moi je crois que ça a l'air d'être pas mal, c'est un peu vide là, on pourrait même rajouter une affiche si tu veux, on va rajouter une affiche, ok.
Bon Nader, c'est sympa de m'avoir envoyé cette vidéo, mais là c'est du son, donc je veux bien décrire le cadre que tu as essayé de refaire. Et là, oui, c'est vrai que le cadre que tu as fait, il y a un mur blanc.
Évidemment, il n'y a que cette affiche-là qui peut s'insérer en ce moment. Ça nous fait une très belle transition, je pense, vers ce que je suis en train de faire. Et donc, ce gars-là, il a imprimé ses affiches à droite, derrière, devant, l'utilité. On se pose la question. Mais celle-là ne m'étonne pas. Parce que c'est les affiches de Fadel Misaoudi, à qui aussi une petite pensée, quoi. C'est normal qu'elle soit imprimée, je veux dire, comme ça. Parce que c'est lui, quoi. Donc c'est tout à fait normal que c'est imprimé de cette manière. Donc voilà, direct, quoi. Direct, direct, cinéma direct, sujet direct, tout ce que tu veux, direct. Et voilà, du coup, Fadel Misaoudi, c'est mon prochain film, mon protagoniste, mon personnage. Voilà quoi. Donc on va le coller derrière nous. Attends, comment si je suis assis comme ça.
Donc on va laisser un peu Nader se préparer. Parce qu'il voulait nous faire une déclaration d'intention. Voilà, il est prêt.
Bien évidemment, on rentre dans une certaine folie, on rentre dans un certain délire. Au fur et à mesure, quand on avance dans le confinement. Donc, c'était quoi la question, Lou?
Il n'y avait pas vraiment de question, Nader.
Comment tu passes ta journée?
Bah, en tant que cinéaste, oui, voilà, c'est un peu comment tu fais ta journée, ou qu'est-ce qu'a comme place le cinéma dans ta journée? Bon, étant donné que c'est une vidéo qui m'a envoyée et que je parle sur la vidéo, ça peut paraître assez bizarre, c'est un peu une tentative étrange. Le revoilà.
Sérieux? Alors, comment tu passes ta journée? Quels sont... tes occupations, qu'est-ce que tu fais? Donc confinement, plus de 2 semaines. Pour être totalement sincère et transparent, on va dire, je suis triste de ce qui arrive, bien évidemment, mais je suis content d'être confiné. En fait, parce que pour moi, c'est la première fois depuis que je suis à Paris, 4 ans, que je prends du temps pour faire des choses autres que travailler matin ou le soir, et après essayer d'enchaîner avec la fac, et après enchaîner avec la thèse. Ça veut dire que j'étais dans un rythme assez rapide, speed. Je me réveillais le matin, je partais à la fac, je revenais, j'enchaînais directement avec le boulot, je travaille dans un resto libanais, et par la suite, je rentrais vers minuit à la maison, et là j'essayais de taffer un peu sur ma thèse pendant 1 ou 2, 3 heures avant que le sommeil et la fatigue m'emportent, quoi. Et encore, parce que c'est très difficile de se concentrer comme ça, quoi. Et donc aujourd'hui, je me retrouve à faire plein de choses. J'ai trié mes disques durs, j'ai nettoyé mon ordinateur, j'ai déroché, j'ai compressé, j'ai fait plein de choses. Et ça fait au moins 3 ans que j'ai dit que je vais le faire, quoi. Donc, premier avantage. Deuxième, c'est de se surpasser, en fait. Trouver un moyen de continuer, malgré tout, à faire des films. Donc, comme tu le sais, Lo, je suis en ce moment sur plusieurs fronts, sur plusieurs projets en même temps. Et là, il y a le coronavirus qui arrive, quoi. Et alors, pour refaire un point, c'est en ce moment, je filme Fadel Missaoudi, qui est derrière moi, un joueur de oud, de lutte orientale, un maître. Le 16 décembre 2019, il a été percuté par une voiture, lui écrasant complètement par exemple, l'épaule droite et la jambe droite, le condamnant ainsi à ne plus jouer. À ne plus pouvoir jouer. Donc il subit plusieurs opérations et voilà quoi, et toute la question est comment Fadel va réussir à se sortir et va pouvoir jouer, quoi. Est-ce qu'il va rejouer, telle est la question du film. Entre parenthèses, grâce au confinement, j'ai pu terminer un dossier de subvention et que j'envoie un peu partout, et voilà quoi, on va croiser les doigts pour que ça atterrisse entre de bonnes mains, on va dire. Et donc l'idée, c'est l'idée, c'est que j'ai commencé à partir de ce décembre à le filmer, à aller presque tous les jours à l'hôpital, à filmer, à être le témoin de ce qui lui arrive, en ayant comme perspective de fin de film, de le voir jouer à la fin, ce serait ça mon film, quoi, et de prédire un peu l'avenir en tant que documentariste. Et, mais on peut prédire tout ce qu'on veut, quand la réalité ou quand l'imprévu arrive, il n'y a rien à faire. Le coronavirus est arrivé en France, l'idée elle est arrivée bien plus tôt, mais bon, le confinement a commencé mars. Mars, je vois que je ne peux plus sortir et qu'il est à l'hôpital. Et à la limite, si ce n'était pas à l'hôpital, j'aurais pu aller dormir chez lui complètement, me confiner chez lui et terminer le film avec lui à la maison, filmer sans confinement. Mais malheureusement, c'est à l'hôpital et à l'hôpital, tout est fermé. Je sais pas si le son est bon, j'hésite à rajouter un zoom. Mais bon, on va le faire punk, parce que t'es punk. Je vais m'approcher, comme ça on est proches l'un de l'autre. Oula. Ouais, bouge pas. Bouge pas caméra, bouge pas écran. Reste là où tu es. Et donc, comment faire, quoi? Mon tournage, ça fait depuis le 16 décembre, je me dis, que faire? Et finalement, il y a une idée qui est apparue, c'est de continuer malgré tout le tournage et en intégrant en fait le coronavirus dans l'histoire. comme si c'était, ça faisait partie de la narration, de la chronologie même du film. Et en plus, on est dans un hôpital, donc on peut pas passer à côté du coronavirus alors qu'on est à l'hôpital, quoi. Donc voilà, toute l'idée, c'est que voilà, tout le monde est obligé de se confiner et et voilà, on se retrouve. Et je me retrouve en fait à continuer le tournage à travers Skype, à travers Messenger, à travers les réseaux, et de filmer un écran, de faire des captures d'écran vidéo et de ses conversations avec Skype et de ce qu'il est en train de vivre. J'ai eu aussi le réflexe de lui laisser une caméra HE8 là-bas, avec laquelle il filme parfois l'ambiance, lui-même qui est confiné dans sa chambre d'hôpital, il peut pas sortir. Donc c'est devenu comme ça, conversation téléphone, conversation, voilà, c'est, je crois que c'est répondre un peu à ta question, que faire pendant le confinement pour continuer quoi, à travailler et à produire. Il y a ça, il y a cette idée-là qui est apparue bien évidemment. Ça demande bien sûr une organisation comme un tournage, ça veut dire parfois il y a des intervenants par exemple qui de ses amis qui rentrent avec nous dans la conversation, et ça tu peux, parfois ça vient au comme ça sur le vif, mais parfois aussi j'appelle les gens pour leur dire écoutez, je vais me connecter à 20h pour une discussion avec Fadel, est-ce que vous voulez rejoindre Donc voilà, j'essaie de faire intervenir des éléments que même lui n'est pas au courant pour essayer d'en sortir autre chose à chaque fois. Pas uniquement une conversation entre deux personnes, mais qui est ses amis qui sont autour, et finalement, il y a une sorte de téléportation, on est à l'intérieur même de sa chambre. Donc voilà, on se retrouve parfois 4, 5, 6, même si la connexion est horrible, c'est pas grave.
Voilà, c'était un petit message d'un ami cinéaste à Paris qui est en confinement et qui, en confinement, continue à faire un film qu'il avait commencé juste avant le confinement en trouvant des stratégies par Internet. Et c'est assez... Hier soir, les voisins d'en face ont fait une boum par Internet. Alors, je ne sais pas ce que ça peut donner, une boum par Internet. On est en connexion avec plein de gens par Internet. Et on fait une boum tous ensemble, à se voir sur un écran, à cliquer avec quelle personne on veut parler, peut-être avec quelle personne on veut danser. On m'a proposé de faire ça, mais bon, j'étais un peu sceptique. Peut-être qu'il serait chouette que j'essaye cette expérience de faire une boum par Internet, mais j'avais plutôt envie de rester sur ma position... du manque de l'autre, parce que ça me fait peur un peu tout ce qui se passe là avec Internet et tous les possibles que ça déploie. Je suis bien conscient qu'à des endroits, c'est super. Et puis à la fois, j'ai peur de qu'est-ce que ça pourrait laisser comme trace plus tard. Et au niveau du cinéma, ben, au moins on voit avec cet ami cinéaste à Paris que ben, on peut continuer à faire des films à distance. Alors est-ce que cette pratique va se déployer? Est-ce que ça va définir d'autres manières de concevoir le cinéma? Moi, j'ai l'impression que je suis un peu archaïque et que ça va encore me dépasser, mais bon, pourquoi pas. J'ai une pensée comme ça, elle me vient comme ça, un musicien que j'aimais beaucoup, Mano Solo, qui le 10 janvier de cette année est mort, et j'avais envie... C'était il y a 10 ans, pardon, excusez-moi, il y a 10 ans. Et j'avais envie d'écouter une musique de Mano Solo, alors on va me dire que c'est encore triste ou mélancolique. Oui, sûrement.
Personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi. Toi que j'ai aimé, compagnon d'un jour ou d'une année. Déjà tu sais que dans mon cœur, même moi j'y flotte encore. Violence est en laisse, mon existence ne tient pas qu'à ma veste. Je suis détruit avant d'être encore. Je suis mort, mais rien n'est fini. Il reste devant moi, et bien peu de plus grand. J'avais su tout mon cœur pour chanter des chansons d'amour, pour Paris, sur la petite scène du tourteau. Mes amis, ne pleurez pas, le combat continue sans moi, tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant. Les orbites et même du plastique sur la bite. Je vais sûrement être calé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même. Sa place. Il y aura des filles et de la ganja, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des porcs envenimés et nous cracherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais. Avec personne, ça vous fait mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Voyez pas que je vous abandonne, même si, encore une fois, je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, priez pour moi.
Voilà, j'avais envie d'écouter cette musique. Écouter cette musique parce que je la trouve très belle. Écouter cette musique parce qu'elle parle de la mort. Et en cette période de coronavirus, j'imagine le nombre de personnes qui doivent être touchées par des proches qui meurent. Et puis j'aime cette musique parce qu'elle porte de l'espoir. Elle nous dit de continuer de lutter. Elle nous dit de continuer d'aimer. Voilà. Un autre cinéaste m'a envoyé un texte que j'avais envie de vous lire un petit bout. On approche de la fin. Voilà. Ce texte est de Bruno Delatour, un sociologue. Il s'appelle « Imaginer les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise ». Voilà, ce cinéaste a eu envie de me faire partager ce texte, alors j'en ai pris un bout. Il est assez intéressant. Je vais essayer de vous le lire, peut-être qu'il vous fera sens. Alors, je ne lis pas tout le texte, mais juste la fin. C'est un texte où il explique un peu comment ça va se passer. Est-ce qu'on va repartir après dans une société hyper productiviste ? Est-ce qu'il va y avoir vraiment une rupture et qu'on va pouvoir inventer une autre manière de toutes et toutes vivre ensemble ? Loin du capitalisme ravageur. Alors, je commence à la moitié du texte. Attention, à la fin de son texte, il propose un questionnaire. Mais il dit, attention, ceci n'est pas un questionnaire. Il ne s'agit pas d'un sondage, c'est une aide à l'autodescription. Il s'agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privé par la crise actuelle et qui vous donnent la sensation d'une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez que celle-ci reprenne à l'identique comme avant, mieux, ou qu'elle ne reprenne pas du tout. Alors voilà, c'est un questionnaire et puis vous prendrez peut-être le temps d'y répondre comme un jeu pour s'amuser. Question 1. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas ? Question 2. Décrivez, petit a, pourquoi cette activité vous paraît nuisible, superflue, dangereuse, incohérente. Petit b, en quoi sa disparition, mise en veilleuse substitution, rendrait d'autres activités que vous favorisez plus faciles, plus cohérentes. Question 3. Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez, se voient faciliter la transition vers d'autres activités. Petit 4. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles se développent, reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement. Question 5. Décrivez petit a. Pourquoi cette activité vous paraît positive? Petit b. Comment elle rend plus facile, harmonieuse, cohérente d'autres activités que vous favorisez? Petit c. Permettent de lutter contre celles que vous jugez défavorables. Question 6. Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs à acquérir les capacités, moyens, revenus, instruments permettant la reprise, le développement, la création de cette activité? Voilà, donc c'est un petit questionnaire comme un petit jeu qui peut être agréable à répondre. Un peu un questionnaire plutôt politique. Mais bon, politique, esthétique, je pense que les deux sont importants à joindre. Pour en arrivant vers la fin, un autre cinéaste m'a envoyé une petite lecture que je vous propose d'écouter. Ça s'appelle « Prière de l'absent ».
À présent qu'il était devenu un autre, il se sentait capable d'aller au-devant de sa plus grande douleur. Il venait de traverser une épreuve longue et douloureuse. D'où ce besoin qu'il avait de s'absenter quelques jours. Le temps d'oublier ce corps qu'il venait de quitter, cette peau gercée déposée entre l'herbe et la pierre, abandonnée près d'un nid de vipères, le temps de s'habituer à ce corps neuf qu'il allait habiter et occuper sans nostalgie. S'installer à l'insu du temps dans un état de coma dont l'issue ne serait pas la mort, il venait de remporter la première victoire sur lui-même, sur ses manques et ses petits desseins. C'était une de ces âmes étroites où généralement il n'y a rien de bon, et presque rien de vraiment mauvais. Alors il pouvait enfin s'emparer du temps et des histoires pour faire le point de sa vie antérieure, toute proche encore, et se mettre à la recherche de la substance essentielle qui donnerait à ce corps impatient souffle, vie et mémoire. Sa vie ne sera pas tracée d'avance. Ses jours ne seront point réglés par la fatalité, mais seront sous le signe du destin, c'est-à-dire de cette mort éblouissante avec laquelle il devra compter malgré tout. Son épreuve lui a appris au moins ce qu'est vivre. Pour l'instant, il jouissait de cet arrêt du temps comme un enfant. Il retrouvera le rire et le sommeil. Il ne se regardait plus dans le miroir. De toutes les façons, son état nébuleux, sa forme vague et indécise, ne pouvait se refléter dans le miroir. Comme il se disait en riant, « Je ne suis pas encore fait, ou du moins pas encore achevé. » Dans des moments de brève inquiétude, il observait ce miroir et l'examinait attentivement. Il le trouvait vieilli, égratigné par le temps, fatigué dans ses fonctions, désolé d'avoir à confirmer si justement, si amèrement, l'usure et la désillusion. Que d'images belles et jeunes et folles avait-il reflété? Que de formes avait-il célébré? Certes, le miroir devrait retenir les images par amour du temps ou par amertume de ne pouvoir les consommer, les isoler, les garder pour les redonner au vent d'automne. Il savait qu'à partir du moment où le miroir lui renverrait son image, il ne pourrait plus se maintenir dans cet état de béatitude, un état de grâce survenant après la grande épreuve. Il savourait les vertus du vide. Il se sentait si léger, si libre et totalement détaché qu'il eut peur de ne plus exister du tout. Peur de se dissoudre dans l'air, de devenir cet être de sable ballotté par les vents et retenu par les touffes d'herbes sauvages sur les dunes. Être de sable et non de cristal, pour pouvoir s'effriter, se perdre dans le néant, et se leurrer et se relever avec la première lueur de l'aube. Être impalpable, débarrassé de tout ce qui l'encombrait, tout ce qui encombrait sa vie antérieure, une vie étroite. Devenir poreux et faire de l'oubli une vertu du silence, dépouillé de tout ce qui s'était amassé dans ce corps-là. Il n'était pas prêt de se remettre sous une quelconque tyrannie, mais se sentait disponible pour être une maison sur la mer ou un jardin ouvert sur de nouvelles prairies. La liberté de penser et d'imaginer, était à chaque instant plus grande, plus intense. Un tourbillon d'images, de couleurs et de mots s'empara de sa tête encore vacillante. Il eut un moment de petite mélancolie. Après tout, sa vie ne l'avait pas préparé à être un jour ce corps en instance de forme et de substance, cet être inachevé, mais en pleine formation et accomplissement. C'était un extrait de La prière de l'absent de Tahar Ben Jelloul. 4 avril 2020.
Voilà, on est le 4 avril 2020. 20e jour de confinement. On arrive à la fin de l'émission Enquête de cinéma. Alors de cinéma, on en a parlé un peu. C'était pas cette émission qui était prévue, c'était un portrait d'un cinéaste qui avait été prévu d'être diffusé sur ces ondes de Radio Galère 88.4, mais finalement, avec ce bousculement qu'il y a eu, j'ai voulu faire une tentative de faire une émission autre et de parler un peu d'autre chose pour essayer d'être un peu plus dans la question de l'actualité. Quant au cinéma, ben, il va continuer comme toute autre chose. Il va continuer différemment. Est-ce que on pourra toujours regarder des films en projection? Sûrement que oui. C'était déjà pas évident avec tout ce qui se passait sur Internet. Sûrement qu'Internet va encore prendre plus de place dans nos vies. Ça me rendrait un peu triste qu'il en soit ainsi. J'espère que les cinéastes continueront à aller dehors, filmer la vie, filmer les gens, filmer le monde, essayer de l'attraper un peu, de le raconter, de le transformer, de l'éprouver, de le donner à voir, de le donner à sentir. Peut-être pour un peu plus aimer, un peu plus s'aimer. C'était une émission sur Enquête de cinéma. Vous pourrez la retrouver sur dérive.tv. Il y a toutes les émissions qui sont podcastées. D'ailleurs, vu qu'il y a du temps, vous pourrez peut-être prendre le temps d'en écouter. Les dernières sont assez belles. Il y en a qui sont plus fragiles. Il y en a qui sont très très belles. C'est des aléas de la vie. Des fois, les choses sont belles. Des fois, elles sont loupées. Alors, pour finir, ben, je vais finir sur quelque chose qui est en lien avec l'amour. Pourquoi ? Bah peut-être parce que l'amour, c'est quelque chose qui fait tenir, que ça soit son manque ou que ça soit le fait de le vivre. C'est Albert Camus qui écrit à Maria Cazares. C'est une longue correspondance entre eux. Tu es entré par hasard dans ma vie, dont je n'étais pas fier. Et de ce jour-là, quelque chose a commencé à changer. J'ai mieux respiré. J'ai testé moins de choses. J'ai admiré librement ce qui méritait de l'être. Avant toi, hors de toi, je n'adhérais à rien. Cette force dont tu te moquais quelquefois n'a jamais été qu'une force solitaire, une force de refus. Avec toi, j'ai accepté plus de choses. J'ai appris à vivre. C'est pour cela, sans doute, qu'il s'est toujours mêlé à mon amour une gratitude immense. Alors, aux amoureux, qui ne le sont pas, en espérant qu'ils le deviennent, aux amoureux qui sont en train de le vivre, en espérant qu'ils le vivent bien, malgré tout ce qui doit être difficile dans le fait d'être confinés l'un sur l'autre, à tous ces gens et toutes ces personnes pour qui c'est encore plus dur de vivre ce confinement, plein d'énergie, plein d'amour, essayons d'avoir confiance dans ce qui arrivera après, et que même si ce qui arrivera après ne nous convient pas, ben on va lutter pour faire en sorte que ça nous convienne le plus possible, plus possible. Lutter en faisant des films, lutter en écoutant de la musique, lutter en militant, lutter en faisant l'amour, lutter en travaillant. Il y a tellement de façons de lutter pour que les choses deviennent belles. Alors je vous dis bonsoir et je vous laisse avec This Day de Nico. Bonne soirée.
Talking these days.
got to do. And all the times I had the chance to, I stopped my rambling. I don't do too much gambling these days. I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I risk another these days. These days. And if I seem to be afraid to live the life that I have made, it's all, it's just that I've been losing so. These days I sit in cornerstones and count the time.